de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à tous, comment ça va? Je suis très heureuse de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et l'autre info, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Le gouvernement indonésien n'a pas d'intention de rapatrier les anciens membres de l'État islamique. Australie lance un site web de 70 ans sur les relations diplomatiques avec l'Indonésie. L'ambassadrice de Russie a réitéré l'attitude de la Russie à propos de l'accord du siècle du président américain Donald Trump. Le président Joko Widodo a admis une communication avec Xi Jinping. Le Vietnam ratifiera un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Le gouvernement de la province de Java West ouvrira un café en France. Voici le journal complet. Le président Joko Widodo a souligné que le gouvernement indonésien n'a pas d'intention de rapatrier les anciens membres de l'État islamique qui avaient renoncé à la citoyenneté indonésienne. Après avoir inauguré mercredi le nouveau chef de l'agence de la sécurité maritime au palais d'État de Jakarta, le président a déclaré que le gouvernement indonésien avait la responsabilité de la sécurité de toutes les personnes qui sont en Indonésie. Selon le président, les données d'identification seront conservées par les autorités d'immigration pour éviter la possibilité de leur retour. Le président a également demandé à son personnel de procéder à une identification complète de tous les membres de l'État islamique qui étaient d'anciens citoyens indonésiens. Je pense qu'il a été dit que le gouvernement a la responsabilité de la sécurité de 160 millions d'Indonésiens. C'est ce que nous priorisons. Par conséquent, le gouvernement n'a pas d'intention de rapatrier les gens là-bas, ISIS ex-ONI. Deuxièmement, j'ai ordonné que 689 personnes soient identifiées une par une, leur nom est qui, de sorte que les données soient complètes, afin d'éviter que cette dissuasion ne soit exercée. Ici, si les données sont entrées dans l'immigration, décisivement cela. Concernant les enfants des membres de l'État islamique qui étaient d'anciens citoyens indonésiens, le président Joko Widodo a déclaré qu'ils avaient la possibilité de rentrer en Indonésie, mais le retour est limité aux enfants de moins de 10 ans.
Memang dari verifikasi dari identifikasi dan verifikasi ini nanti akan kelihatan.
En effet, l'identification et la vérification sera vue plus tard. Nous offrons encore des opportunités aux orphelins des enfants de moins de 10 ans, mais nous ne savons pas encore si oui ou non. Je pense que le gouvernement est strict à ce sujet. Le président Joko Widodo a déclaré que le risque de retour devait avoir été calculé avant de décider de rejoindre l'État islamique en Irak et au Levant ISIS et de renoncer à la citoyenneté indonésienne. Pour célébrer le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Indonésie et l'Australie, l'ambassade d'Australie à Jakarta a lancé le site web 70 ans, 70 histoires à Jakarta mercredi le 12 février. L'ambassadeur adjoint de l'Australie, Alastair Cox, a déclaré que le site www.70yearsindonesiaaustralie.com présente des histoires de personnalités australiennes et indonésiennes qui ont contribué au maintien des relations diplomatiques entre les deux pays.
The website is based on research we've done at the
Ce site web est basé sur les recherches que nous avons effectuées à l'ambassade, identifiant les personnes clés, les événements importants dans les relations bilatérales entre l'Australie et l'Indonésie au cours des 70 dernières années. Et Nick, conseiller en diplomatie numérique, et son équipe ont effectué de nombreuses recherches détaillées sur les sources de photos, des films, les histoires des personnes impliquées dans l'établissement des relations entre l'Australie et l'Indonésie. Donc, à mon avis, lorsque vous y entrerez, vous verrez des histoires de toutes sortes de personnes différentes dans divers domaines de la vie qui ont été impliquées dans la création des relations interpersonnelles. Et j'espère que ce site web inspirera les jeunes à créer des opportunités de relations aussi. Cela montre ce qui s'est passé auparavant au cours des 70 dernières années dans l'établissement des relations et le potentiel de nouvelles relations. Ce site web disponible en indonésien et en anglais présente des informations sur l'histoire et l'actualité. En outre, il est une source d'informations de la bibliothèque multimédia riche en photos et vidéos, dont le film documentaire indonésien Calling et Batavia 1945. Selon l'ambassadeur adjoint de l'Australie, il s'agit d'un portrait parfait pour les habitants de l'Australie et l'Indonésie qui souhaitent avoir une compréhension plus profonde et plus large des relations bilatérales entre les deux pays. L'ambassadrice de Russie en République d'Indonésie, Madame Lyudmila Vorobieva, a réitéré l'attitude de la Russie à propos de l'accord du siècle du président américain Donald Trump. L'ambassadrice Lyudmila Vorobieva a déclaré lors d'une conférence de presse mercredi le 12 février que la Russie avait toujours cru que le seul moyen d'arrêter la guerre entre l'Irak et la Palestine et de ramener la paix dans les deux pays était par une solution à deux États. Notre position est très claire, il doit y avoir une solution qui est trop tard pour un conflit qui dure depuis des décennies. Mais bien sûr, le problème est que les parties au conflit doivent s'en réjouir. Comment pouvez-vous résoudre qu'un conflit si une partie ne veut pas accepter? Ce n'est pas le problème des États-Unis. Ils disent que ça devrait être comme ça. Mais vous savez, si la Palestine ne l'accepte pas, ça ne marchera pas. Cela n'arrêtera pas la guerre, cela n'empêchera pas les gens d'être tués. Selon l'ambassadrice Lyudmila Vorobieva, l'accord du siècle ne fonctionnerait pas si les Palestiniens étaient négatifs à ce sujet. Concernant le rôle joué par la Russie au Moyen-Orient, a déclaré l'ambassadrice Vorobieva, la Russie a joué un rôle important dans les efforts visant à parvenir la paix au Moyen-Orient. Mais elle pense que la solution à ce problème réside dans l'accord entre les deux pays. Concernant le rôle de la Russie dans la guerre en Syrie, à son avis, la Russie est le seul pays qui a été demandé par le gouvernement syrien légitime à les aider à lutter contre le terrorisme. Le président Joko Widodo a affirmé qu'il s'est entretenu avec le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. La conversation s'est déroulée par téléphone mardi soir. Le président Joko Widodo a expliqué aux journalistes au Palais d'État de Jakarta mercredi que dans sa conversation avec le président Xi Jinping, il avait exprimé ses condoléances pour l'épidémie de COVID-19 en Chine. COVID-19 est un nouveau nom affirmé par l'OMS pour le virus corona qui est endémique en Chine. Dans sa conversation avec le président de Chine, le président Joko Widodo a également exprimé son optimisme qu'au fait, la Chine serait en mesure de résoudre le problème COVID-19 en peu de temps. Le président a également déclaré que l'Indonésie était prête à fournir une assistance si la Chine en avait besoin.
Melalui telepon dengan Presiden RRT, Presiden Xi Jinping.
Si je parlais par téléphone avec le président chinois, le président Xi Jinping. Tout d'abord, j'exprime mes condoléances et ma sympathie aux victimes du virus corona en Chine. Ensuite, je dis que l'Indonésie sera toujours avec la Chine dans une période difficile. J'ai également dit que l'Indonésie était convaincue que la Chine pourrait résoudre le problème du virus corona dans les plus brefs délais. C'est à peu près ce que j'ai transmis au président Xi Jinping. Auparavant, un certain nombre de médias en Chine a déclaré que le président chinois Xi Jinping avait communiqué mardi soir avec le président Joko Widodo. À cette occasion, Xi Jinping a assuré au président Joko Widodo que la Chine avait gagné la guerre contre COVID-19. Xi Jinping a également exprimé son appréciation pour l'attention accordée par le gouvernement indonésien à la Chine. Selon lui, en tant que pays ami, l'Indonésie et la Chine doivent collaborer pour progresser. L'Assemblée nationale du Vietnam ratifiera l'accord de préessence Vietnam-Union européenne lors d'une prochaine réunion, a déclaré mercredi le ministre de l'Industrie et du Commerce, Tran Tuan An, à Hanoï mercredi. Tran Tuan An a déclaré que le vote qui sera organisé au Parlement européen pour l'accord était une étape importante dans les relations entre les pays d'Asie du Sud-Est et l'Union européenne. Il a déclaré que le ministère de l'Industrie et du Commerce soumettrait cet accord au président avant de le soumettre à l'Assemblée nationale pour être accordé. L'Assemblée nationale du Vietnam, qui est l'organe législatif du pays, organisera la séance en mai prochain. Le gouverneur de Java West, Ridwan Kamil, ouvrira un café en France. L'ouverture du café est une forme de coopération à court terme ou à petite échelle entre le gouvernement provincial de Java West et la France. Cela a été dit par Ridwan Kamil après avoir reçu mardi une visite de travail de l'ambassadeur d'Indonésie en France, Armanata Kristiawan Nasir, à Bandung. Selon le projet, le café sera construit dans le sud de la France. Ridwan Kamil a déclaré qu'une réunion avec l'ambassadeur a eu lieu pour discuter des opportunités de coopération entre le gouvernement provincial de Java Occidental et la France dans divers secteurs allant du socio-culturel, du commerce jusqu'à l'investissement. Selon lui, actuellement la plus grande opportunité est la coopération pour construire un hôpital. Ridwan a révélé que le gouvernement provincial de Java Occidental avait besoin de 23 nouveaux hôpitaux. En outre, le gouvernement de la province de Java West a également ouvert des opportunités de coopération avec la France en matière d'infrastructures et de projets de transport en donnant la priorité au concept d'objectifs de développement durable. Serge Ritter, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Serge Mlonten, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, le sort des citoyens indonésiens de l'ex-ISIS. Après des semaines de discours sur le retour des ressortissants de l'ex-ISIS en Indonésie, le gouvernement indonésien a finalement décidé de ne pas rapatrier dans le pays d'environ 689 citoyens indonésiens qui se trouvent actuellement en Syrie et en Turquie. Il y a des pour et des contre liés à la décision du gouvernement. Ce qui devient la question maintenant est de savoir ce qui se passera après que des centaines des anciens citoyens indonésiens soient devenus apatrides. Lors d'une réunion restreinte du cabinet, mardi le 12 février au Palais de Bogor, présidé directement par le président Joko Widodo, le gouvernement indonésien a publié une déclaration officielle concernant le refus de retourner environ 689 membres de l'ISIS de l'ancien citoyen indonésien. Après une réunion limitée, le ministre de coordination des droits politiques et des droits de l'homme, Mahfoud MD, a déclaré que le gouvernement n'avait pas d'intention de rapatrier les terroristes et ne rapatrierait même pas les combattants terroristes étrangers ou FTF en Indonésie. Selon lui, dans la décision de la réunion, le gouvernement doit être en mesure d'assurer la sécurité contre la menace des terroristes et des nouveaux virus contre les 167 millions de personnes en Indonésie. Pendant ce temps, Jawahir Tontowi, expert en droit international de l'Université islamique indonésienne, a déclaré que le rejet par le gouvernement indonésien contre des citoyens indonésiens de l'ex-ISIS aurait un impact négatif. Selon Jawahir, le gouvernement pourrait être considéré comme violant les conventions internationales sur la citoyenneté. En outre, le gouvernement peut également être blâmé au niveau international pour avoir refusé des membres d'ISIS d'ex-citoyens indonésiens de retourner en Indonésie sans procès. À l'heure actuelle, environ 10 à 11 000 membres de l'ISIS d'ex-citoyens indonésiens, militants et partisans sont détenus dans plusieurs prisons en Irak et en Syrie. Sur des dizaines de milliers, 2000 sont des militants étrangers ou originaires de l'extérieur de l'Irak et de la Syrie. Citant les données de l'UNHCR, 27% du membre total de l'ex-citoyen indonésien sont des femmes et 67% sont des enfants de moins de 12 ans. En se référant à ces données, il est connu que plusieurs pays dont les citoyens étaient impliqués dans l'État islamique ont refusé le retour de leurs citoyens, comme la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France et l'Australie, seule l'Italie qui a autorisé le retour de ses citoyens. Mais la France et l'Australie ont finalement permis le retour de leurs citoyens pour des raisons humanitaires, notamment pour les femmes et les enfants. En réfléchissant à l'Italie, à l'Australie et à la France, l'Indonésie fera-t-elle également la même chose? Il convient de noter que plusieurs citoyens indonésiens ont rejoint la Syrie parce qu'ils ont été trompés par des fausses promesses et coincés avec des problèmes de travail. La majorité des membres d'ISIS de l'ex-citoyen indonésien sont des femmes et des enfants. En effet, l'Indonésie doit encore être prudente et tournée vers l'avenir pour maintenir la sécurité et la paix en Indonésie, mais elle reste également équitable pour les citoyens indonésiens de l'ex-ISIS. Serge Ritor, c'était le commentaire pour ce soir.
Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 13 février. On commence par le 13 février 1946. On a fondé l'Association indonésienne des experts pharmaciens. 6 mois après la proclamation de la République d'Indonésie, on a formé l'Association indonésienne des experts pharmaciens, ou en indonésien, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, ou abrégé en PAFI, le 13 février 1946 à l'Hôtel Merdeka de Yogyakarta, dont le premier président était Zainal Abidin. Au début de l'indépendance, il y a eu une guerre avec les troupes néerlandaises. En tant que premier président du PAFI, Zainal Abidin et Cassio ont été chargés de déplacer des matériaux et des machines pharmaceutiques de Jakarta à Yogyakarta, car il y avait des informations selon lesquelles les Néerlandais contrôleraient les centres pharmaceutiques. Ils transportaient des médicaments, des matières premières et des machines entrantes. Il a pu achever les travaux en 2 mois de manière progressive afin que cela ne soit pas visible par les inspecteurs néerlandais dans les zones frontalières. Zainal Abidin et ses autres pharmaciens adjoints ont finalement réussi à transférer les ingrédients pharmaceutiques et les machines aux combattants de la République d'Indonésie qui en avaient besoin. Le 13 février 1955, Israël a reçu 4 de 7 manuscrits de la Mer Morte. Les manuscrits de la Mer Morte se composent d'environ 900 documents, y compris des textes et des écritures hébraïques, qu'on a trouvés entre 1947 et 1956 dans 11 grottes de Wadi Qumran et ses environs, au sud-ouest de la côte de la Mer Morte. Ces textes ont des significations religieuses et historiques importantes car ils sont les seuls documents bibliques produits entre 150 avant Jésus-Christ et 70 après Jésus-Christ. Selon un point de vue presque universellement accepté jusqu'en 1990, ces documents ont été écrits et cachés par une communauté essénienne vivant dans la région de Qumran. Le 13 février 1955, Israël a réussi à collecter 4 de 7 manuscrits que des chercheurs israéliens ont achetés à des antiquaires. Le 13 février 1960, la France tentait sa première bombe atomique. La France a commencé son programme nucléaire avec l'aide des scientifiques israéliens. Le 13 février 1960, la France a réussi à faire exploser la première bombe atomique codée Gerboise bleue. Ils testaient une bombe explosive de 60 kilotons au désert du Sahara. La France possède 350 ogives nucléaires et la France a effectué 210 essais de détonation nucléaire. Voilà l'histoire d'aujourd'hui. C'était la chanson intitulée « Dari Mata Sang Garuda » qui signifie « Aux yeux de Garuda » chantée par Pee Wee Gaskin. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde sur la fréquence de 3325 kHz. La rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Chers auditeurs de tout le monde entier, voici le programme Indonésiaku intitulé « 7 ministres institutions signent un accord de coopération sur la sécurité maritime et le tourisme maritime ». Mercredi 12 février, 7 ministères et institutions ont signé un accord de coopération sur la sécurité du transport maritime et la protection de l'environnement maritime et la gestion des aires marines protégées et du tourisme maritime au ministère des Affaires maritimes et du Bureau d'investissement à Jakarta. La signature de l'accord de coopération a été dirigée par le fils sous-ministre par intérim chargé de la coordination de la souveraineté maritime Purbaya Yudi Sadewa, le ministère des Affaires maritimes et de l'investissement. L'accord a été signé par des représentants des ministères institutions tels que le ministère de coordination des Affaires maritimes et de l'investissement, le ministère des Transports, le ministère de l'Environnement et des Forêts, le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche, le ministère du Tourisme, l'Agence d'information aérospatiale et l'Armée nationale indonésienne. Selon Purbaya Yudi Sadewa, la signature de cet accord de coopération vise à intégrer, harmoniser et faciliter l'accès lié à la sécurité maritime et à la protection de l'environnement maritime, à la gestion des aires marines, des conservations, des parcs nationaux marins, des parcs touristiques et du tourisme marin. En outre, dans la signature de la coopération, on a également été discuté sur la force de chaque ministère dans le garde de la surveillance de la mer d'Indonésie. Ceci est important à faire pour que lorsqu'il y a des problèmes tels que dans les eaux de Natuna, une action puisse être prise immédiatement. Les points forts de chaque ministère, institution et TNI peuvent ensuite être partagés pour optimiser la réponse nécessaire si une politique est nécessaire pour faire face à une situation particulière. Purbaya a souligné l'importance de la sécurité maritime et de la protection maritime. Il ne voulait pas que des événements tels qu'un accident de bateau qui a frappé un récif de corail à Raja Ampat il y a quelque temps, se répète. Par conséquent, pour anticiper des événements similaires qui se produiront à l'avenir, il crée actuellement des canaux de navigation et des cartes marines dans la zone de protection marine de Raja Ampat. De sorte que dans cette coopération a également souligné la préparation de la carte de la mer indonésienne utilisée par les marins indonésiens et étrangers. Selon Purbaya, cela pourrait être de prévenir et de surmonter les accidents en mer. À travers cet accord de coopération, la synchronisation des données et la carte marine ont été convenues. Les ministères, institutions qui mènent des activités en mer utilisent une carte de la mer produite par le Centre hydrographique et océanographique de la marine. En plus d'être une navigation, la synchronisation des données peut également être utilisée pour identifier le potentiel du tourisme marin, le calcul de la valeur des services écosystémiques, ainsi que le calcul de l'impact des dommages environnementaux dans les eaux indonésiennes. Tout sera mis en œuvre dans le domaine de la protection de l'environnement, de la sécurité du transport maritime et de la gestion des zones de conservation de l'eau et du tourisme marin. C'est ce détour de 10, c'était l'Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Satu Nusa, Satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jauh.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Chocolat dont le titre est Satu Nusa Satu Bangsa ou en français Une Patrie, Une Nation. Cette chanson a été créée par El Manik. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Bonsoir à tous, voici le magazine culturel. Dans cette édition, je vous présente l'île de Noko à Java de l'Est. La région de Gresik est située dans la partie nord de la province de Java de l'Est. La région comprend également l'île de Bawean, qui est située à environ 120 km au nord de la région de Gresik. Les îles de Bawean ont de nombreuses petites îles magnifiques telles que l'île de Noko, l'île de Gili Timur et de nombreuses autres attractions touristiques. L'île de Noko est une petite île inhabitée avec des belles vues à la fois sur terre et sous la mer. L'île de Noko n'a presque rien. Cette île n'a que des arbustes et sur toute la terre, il n'y a que du sable blanc. L'île est également très petite, seulement environ 1 km carré. Si vous y êtes arrivé, les touristes seront sûrement fascinés par sa beauté naturelle. Avec l'eau de mer, qui est bleue et très claire, vous pouvez voir la beauté sous-marine sans avoir besoin de plonger. De nombreuses activités peuvent être faites pour profiter de la beauté sous-marine de l'île, comme la natation, la plongée en apnée et la plongée si vous apportez votre propre équipement, car cette île ne fournit pas de lieu de location pour le matériel de plongée. Pour profiter de la beauté de l'île de Noko n'est pas facile en raison de son emplacement assez éloigné. Les visiteurs qui viennent de la ville de Surabaya doivent d'abord voyager pendant une heure jusqu'à la ville de Gresik. Ensuite, il faut faire un voyage qui dure environ 3 heures à travers la mer de Java du port de la région de Gresik à l'île Bawean. Après un arrêt au port de Bawean, les visiteurs voyageront pendant 20 minutes pour se rendre sur l'île de Noko en bateau à moteur appartenant à un pêcheur local.
Kau, 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 kau
Chers auditeurs, c'était la chanson de Lila intitulée Indonésiaku ou en français mon Indonésie. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie. Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur ayant pour titre 2020 amateurs internationaux de Kebaya se réuniront à Yogyakarta. Kebaya est une tenue nationale féminine très populaire en Indonésie. Kebaya a différents types et motifs qui suivent les temps changeants. Pour cela, Kebaya est la fierté des femmes indonésiennes. Un total de 2020 femmes de divers pays se réuniront à Yogyakarta pour battre le record du monde en portant le plus de kebaya le 20 février 2020. L'événement intitulé 2020 femmes en kebaya a été organisé par la collaboration des peuples autochtones de l'archipel ou Matra, Sri Kandi, des peuples autochtones de l'archipel ou Srita, et de l'Organisation d'entrepreneurs de salon indonésien du Conseil de gestion régionale, ou DPD, Tiara Kusuma, Yogyakarta. Raden Ayu Dia Purnamasari Zuhair, la présidente du comité 2020 Femmes en Kebaya, a expliqué que depuis l'ouverture de l'activité plus tôt cette année, la réponse a été extraordinaire, non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi à l'étranger. Les participants étrangers qui participeront à l'événement, qui était centré à l'hôtel de la ville de Sleman à Jogja, sont du Japon, de Singapour, de Malaisie et de Hongrie. Un certain nombre de représentants des pays du monde se joindront également à la réunion, notamment du continent africain. Cependant, les participants nationaux ont été enregistrés comme venant d'Engano, qui est l'île extérieure de l'Indonésie dans l'océan Indien. L'île Engano fait partie de la zone gouvernementale de la région Bengkulu Nord, dans la province Bengkulu. L'enthousiasme des participants a été jugé assez encourageant, car elles font du kebaya une robe pour les femmes indonésiennes qui devient globale. Ce n'est plus seulement un vêtement javanais typique pour femmes. Sembleront battre des records du monde 2020 femmes vêtues de kebaya avec du tissu batik Nusantara, appelant ensemble à la paix mondiale. En plus de battre des records et de participer à diverses compétitions, des participants venant de différents groupes ethniques, nationalités, cultures, coutumes, religions, croyances et différentes langues réclameront également un esprit de paix mondiale. C'était l'Indonésie en couleur. C'était la dernière chanson intitulée Juwita, chantée par Aya Anjani. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde sur la fréquence de 3325 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute! Voici le magazine musical. Dans cette édition, je vous présente une chanson de Iis Sugiarti. Le début de sa carrière de chanteuse a commencé depuis la sortie de l'album intitulé « Di sini aku menanti » en 1985. Cet album a rendu son nom célèbre. Son deuxième album intitulé « Ingatkah kau padaku » a également remporté le succès. La chanson part s'intitule la même, c'est « Ingatkah kau padaku ». Cette chanson dont le thème est l'amour, elle a été publiée en 1986. Elle raconte d'une femme qui manque son ex-petit ami, tandis que l'ex est maintenant heureux avec sa nouvelle amante. Chers auditeurs, voici la chanson intitulée « Ingatkah kau padaku » ou en français « Rappelle-toi à moi » chantée par Iis Sugiarti. Bonne écoute!
Dengan memutar radio. Voice of Indonesia.
Voilà l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voinews.id. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.